Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1996, peu après qu'eût été inauguré le musée Tinguely de Bâle, France Culture diffusait en deux temps un entretien que Niki de Saint-Phalle accordait à Pierre Descargues, dans lequel elle témoignait des questions et des difficultés auxquelles elle avait dû faire face en se retrouvant, après la disparition de Jean Tinguely en 1991, légataire de la quasi-totalité de son œuvre et en charge de son droit moral. Après avoir, dans la première partie de l'entretien, expliqué pourquoi, pour préserver au mieux les œuvres de Jean Tinguely, elle avait fait le choix de la création du musée de Bâle auquel elle avait cédé celle que lui avait transmise son mari, elle témoignait dans la seconde partie de la nature du dur combat qu'elle avait dû livrer pour imposer son choix. Un entretien dans lequel, de la manière la plus forte, la plus vivante et la plus touchante qui soit, Niki de Saint-Phalle évoquait le lien indéfectible qui les unissait l'un à l'autre, bien au-delà de leur séparation sans divorce, et pour elle, au-delà de la mort de Jean Tinguely. « Niki, je vais te laisser avec un grand chaos et tu mettras de l'ordre », lui avait-il dit. Nous allons entendre là Niki de Saint-Phalle dire sa fierté de s'être sortie au mieux de cette mission. Les arts et les gens, la vie d'artiste, le musée Jean Tinguely à Bâle, entretien avec Niki de Saint-Phalle, seconde partie, diffusée la première fois le 30 décembre 1996 sur France Culture.
Les arts et les gens. Pierre Descargues.
Témoignage, second et dernier entretien avec Niki de Saint-Phalle. L'un des derniers, elle a raconté comment elle avait été conduite à faire la donation qui a permis la création du musée Tinguely à Bâle. Aujourd'hui, elle continue son chemin, continue son récit. Le dialogue qu'elle a noué avec Jean Tinguely ne s'achèvera jamais.
Alors, beaucoup de gens disent « Jean n'aimait pas les musées ». C'est vrai, mais il ne faisait que exposer dans les musées. Et Jean était quelqu'un de très paradoxal. On peut être contre, mais il n'y avait rien de mieux. J'ai jamais vu Jean passer son temps à exposer dans des endroits comme la Verrerie qui était... Non. Et il était même triste à la fin. Il voulait beaucoup que son exposition aille en Amérique, ça foirait. Il était ravi chaque fois qu'il y avait ces grandes expositions de musée. Ça lui donnait comme un tonus. Tout en le critiquant, c'était d'ailleurs une des forces de Jean, sa paradoxalité. Alors il faut le prendre dans les deux sens. Et... pour bien ou pour mal, c'est le meilleur moyen pour préserver l'œuvre. Et quand je vois que des générations futures, Jean adorait les enfants, vont avoir le plaisir de voir son œuvre, alors moi, je suis fière. Franchement, ça n'a pas été une partie de plaisir, tout ça, parce que tout le monde était contre moi. En plus, Jean m'a toujours reproché que j'étais naïve. Il m'a donné Le Prince à lire au moins 5 fois, mais je trouvais ça tellement ennuyeux que je n'ai jamais lu. Eh bien, beaucoup de choses qui m'ont arrivé sont bien de ma faute. Parce que personne osait vraiment, on me laissait tranquille parce que j'en foutais la trouille à tout le monde. Côté macho, Jean aimait bien mon côté féministe, et moi j'aimais bien son côté macho, et on était un très bon couple là-dedans. Parce que, mais les gens n'osaient pas, ils avaient peur que Jean leur casse la gueule. Ils n'osaient pas, mais dès que Jean n'était pas là, alors, on m'a fait signer des papiers que j'aurais jamais dû. Je pensais que c'était des grands amis, mais ils ont montré leur côté ombre. Je ne dis pas que c'était seulement des salauds. Je dis que je n'ai pas fait mes devoirs de savoir comment fonctionne le monde, parce que ça ne m'intéressait pas. Et Jean était très fort là-dedans. Alors, je l'ai laissé faire, je lui demandais ses conseils, et moi, je faisais mon art, et j'ai fait une erreur. Et il me l'avait souvent reproché. Donc, je n'étais pas munie, et les hommes, soyons honnêtes, ils n'aiment pas une femme forte. Les hommes forts ont beaucoup de prétendants tout autour d'eux. Je ne peux pas dire que j'ai une flopée de prétendants autour de moi. Une femme forte fait peur aux hommes. Et deuxièmement, on ne veut pas la voir renforcée encore. Parce que par son testament, Jean me renforçait. Alors, on a essayé de me rouler. Mais on m'a sous-estimée. Il pensait que j'allais crever parce que je savais pas comment faire. Parce que personne ne me disait exactement ce que c'était le droit moral. Parce que c'était dans leur intérêt. Alors plein de choses se sont faites qui ne devraient pas se faire, qui n'auraient pas dû se faire. Et moi, j'étais affolée. Pendant 2 ans, j'étais assise dans un lit et je me sentais très très mal que je trahissais les gens. Je n'avais qu'une envie, c'était de ne pas prendre mes antibiotiques et y crever. Parce que je ne pouvais plus faire avec ce monde que je n'avais pas l'habitude de faire avec. Et que je ne savais plus où aller. Et tout était tellement flou. Et quand je demandais des questions, on m'engueulait, comme si j'étais une imbécile. Je veux dire, on a vraiment fait, et je crois que c'est très souvent, on m'a expliqué qu'avec les femmes, ça arrive plus fréquemment. Mais ils ont oublié que j'ai dans mon histoire des guerriers qui descendent jusqu'aux croisades. Et je suis une bonne combattante. Jean, même, pour le paradis fantastique, il m'avait envoyé pour attraper la commande. Parce qu'il savait que je savais me battre. Alors quand j'ai vu et que j'ai compris finalement, eh bien je me suis battue comme une folle. Et j'ai redressé la situation avec l'aide des gens, parce qu'il y avait aussi... Parce que une personne bonne et qui veut le bien vaut 100 personnes qui veulent l'autre. Parce que les autres, ça tombe. Alors il y en avait quelques-uns qui m'ont vraiment aidée. Et on a pu redresser la situation. J'ai compris qu'est-ce que c'était le droit moral et que c'était une vraie puissance où je pouvais protéger Jean. Et Jean m'avait beaucoup protégé dans ma vie, plus que je n'imaginais, jusqu'à sa mort. Je me souviens encore d'une fois, on ne vivait plus du tout ensemble. Mais comme tu sais, on se voyait tout le temps, on se faxait tout le temps, on se téléphonait. Il y avait un courant entre nous, il y avait quand même un espèce de miracle. Il y avait quelque chose qui se passait. Inexplicable, parce qu'on n'avait pas nécessairement les mêmes goûts. Moi, les grands prix, ça m'ennuyait. Et lui, les romans et les poésies, etc., c'était pas son truc. Mais il y avait quelque chose de magique, une électricité qui se passait, qu'on pouvait pas être ensemble sans avoir des idées, s'amuser, commencer à dessiner. Il y avait... qui a transcendé tous les liens. On était quand même, on peut dire, des âmes sœurs, quelque part. C'était sur un niveau plus... C'était très difficile pour les autres gens qui nous ont aimés. Parce que les hommes dans ma vie me disaient « Tu es la femme de Jean ». J'étais toujours pour eux la femme de Jean. Ils avaient raison. Et Jean venait toujours me repêcher. On se repêchait l'un l'autre. À la fontaine Stravinsky, Jean devait le faire avec Miro. Je ne sais pas si tu crois. On lui avait suggéré... C'était l'idée de Boulez qui voulait, il s'ennuyait avec cette place. Il a demandé à Jean de faire une fontaine. Et Jean a dit, il me faut de la couleur en face à vous. Alors, je ne sais pas qui lui est, si c'est Boulez ou quelqu'un d'autre. J'ai suggéré Miro, mais il dit, non, je fais une équipe ou je ne le fais pas. C'était un grand hommage. Alors là, on a recommencé. Je crois que c'est une grande réussite. Parce que ça donne tellement de joie aux jeunes gens. Et je voulais que cette même joie qui est dans l'œuvre de Jean continue. Battue. Et crois-moi, c'était pas... Les Anglais diraient que c'était pas ma tasse de thé. Je n'aime pas tellement le confrontement. Et Jean, comme j'ai dit, me protégeait. Maintenant, c'était mon tour de le protéger. Et aussi d'affronter qu'on me trouve une salope, que je ne faisais mal, que n'importe quoi. Mais je m'en foutais. J'avais cette idée qu'il fallait préserver son œuvre. Et je suis très fière. Je trouve que Mario a fait une chose qui est vraiment un parcours qui est très beau et qu'on ne peut pas vraiment voir ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand les artistes meurent, on ne les voit pas très bien. Parce que c'est impliqué de jalousie. Et j'ai vu qu'il y avait tellement de veuves. Moi, je ne me considère pas sa veuve. Mais il y avait un innombrable nombre de veuves qui racontaient comment était Jean et qui voulaient faire passer un autre message. Et on m'a expliqué que ça arrive très souvent avec la mort d'un artiste. On veut le récupérer et le changer dans... Très souvent, que c'est très très fréquent dans l'histoire de l'art. Alors moi, je me suis dit la seule chose, je ne prétends à aucune vérité, mais je m'amuse beaucoup à écrire les anecdotes. J'aime bien raconter, comme l'histoire orale. Alors je suis en train d'écrire en ce moment mon autobiographie, et je raconte, parce qu'il y a tellement d'histoires drôles et marrantes, et que les gens prennent leur conclusion de ça. Mais je ne vais pas aller dans des grandes théories, parce que, comme j'ai dit, la vérité, c'est seulement Dieu qui la voit, pas moi, et pas les autres.
Niki, on a visité le musée, à l'instant tu viens de nous dire que tu es très contente des espaces de Mario Botta, ça te paraît très très beau. Est-ce que l'ensemble de la donation que tu as faite est dans les salles? Est-ce qu'il y aura un roulement des œuvres? Comment ça va se passer à l'avenir?
Eh bien, non, pas toutes les œuvres sont là, j'ai donné 55 œuvres et plus une centaine de dessins. Il y a des choses qui ont été empruntées, il y a des choses qui appartiennent à la Fondation Roche. Un musée monographique ne peut pas exister, restons toujours pareils. C'est pas possible. Alors, donc, je pense que leur idée pour le moment est de... D'abord, il faut laisser les gens voir les salles. Et j'aime beaucoup comment pendant tous les années 60, il les a bourrés. Et on sent le passage et l'influence des années sur Jean. Parce qu'on voit les années 50 et les années 60, la folie et le truc, et on voit l'évolution très bien. Jean a été parti de beaucoup de différents mouvements. D'abord, il a été avec le cinétisme. Après, il a fait partie du nouveau réalisme. Et après, il a fait ses recherches avec la machine. Je veux dire, on peut faire... Et puis, toute sa génération qu'il aimait, les choses qui l'ont influencé. Je veux dire, je crois qu'il y a beaucoup d'ouverture. Et l'idée du musée, c'est de laisser une certaine partie du musée pour autre chose, pour garder le musée vivant.
Autre chose, ça veut dire quoi? Des œuvres d'autres artistes?
Artistes jeunes.
Oui.
Aussi, parce que Jean aimait beaucoup les jeunes. Et j'espère qu'ils feront ça, parce que ça, c'était une chose que je pense nécessaire.
Il n'y a pas beaucoup de Niki de Saint-Phalle dans ce musée. Il y a un grand oiseau qui est très beau.
Oui.
Oui, il pourrait y en avoir plus, mais je pensais que les collaborations que vous avez eues tous les deux seraient plus évidentes.
Eh bien, écoutez, c'était le choix des curateurs. Bon. Chacun veut écrire l'histoire comme ils veulent.
Parce que c'est si souvent, depuis le toit du pavillon français à Montréal,
oui.
Depuis là où, depuis, enfin, on cite presque rien, quoi.
Oui.
Et puis pas loin d'ici, à Milly-la-Forêt, le Cyclope, ou hein, la tête. Enfin. Et là, c'est pas tellement évident, cette collaboration.
Mais je crois que, pour des raisons que je n'ai pas compris, c'est moi qui ai insisté qu'il y en ait une. Il n'y en aurait pas eu du tout. Mais non. J'ai insisté parce que je trouvais que c'était quand même un peu, quand on pense à toutes les choses qu'on a fait.
Mmh. Ben oui.
Ensemble, et elles ne sont pas mises en évidence dans le catalogue non plus.
Non plus, non, bien sûr.
Jardin des Tarots, écoutez, il faudrait leur demander pourquoi. Peut-être ils vous répondront. Parce que c'est Pantou Sultan et Marguerite Hanloser qui ont décidé comme ça. Je sais que Mario Botta n'était pas d'accord parce qu'il dit vous pouvez pas changer la vie de Jean. Mais bon, c'était leur choix, mais je suis contente, il y a ça, et Mario insistait que j'avais des chaises, que je fasse les chaises dans le... Mais écoutez, ils avaient...
Bon, alors, y a le projet, je crois, Niki, d'une fondation à Fribourg.
Oui.
Est-ce qu'on sait quelque chose de ça?
Moi, ils ont
très
beaucoup parlé dans les journaux.
Oui.
Ils n'ont jamais fait de proposition parce que j'ai 800 000 dollars de dettes. dessus. Ils n'ont jamais venu avec un projet. Ils ont seulement dit qu'ils savaient ce que Jean voulait.
Ah oui.
Alors, je me dis... Parce que Jean, c'est vrai qu'il parlait différemment à différentes personnes.
Non, vous savez que Fribourg, c'est la verrerie au fond, c'est ça l'histoire.
C'est ça.
C'est ça, donc c'est pas un autre projet différent.
Non.
Non. Bon.
Et alors, ils voulaient s'épier dedans, et ils allaient trouver un petit peu d'argent. Mais surtout, je pense, qu'il y avait ce que j'ai dit, et c'est mon opinion. Je ne dis pas que c'est la vérité, parce que je ne contiens pas la vérité. Je n'ai que ma petite opinion à moi. C'est qu'il y a eu deux grands artistes suisses, Giacometti et Jean. Et les autres qui veulent la verrerie, c'est des bons artistes. Mais ils ne sont pas au même niveau. Jean à la verrerie, je ne pense pas qu'ils avaient la même obsession pour préserver l'œuvre de Jean que moi. Je pense qu'ils avaient plus une obsession de montrer qu'ils étaient tous au même niveau.
Niki, tu viens de réaliser le musée de Jean Tinguely à Bâle. Qui réalisera, est-ce que tu en as envie d'abord, un musée Niki à quelque part?
Eh bien, écoute, quelque part, le jardin du tarot est probablement mon grand legs. Je serais très heureuse si, par exemple, en France, où j'ai vécu très longtemps, qu'on me donnait un vieux bâtiment, pas très grand, où je pourrais mettre quelques œuvres de première qualité pendant ma vie que je choisirais et que ce serait le premier musée pour une femme. Mais c'est plus difficile pour une femme.
Second et dernier entretien avec Niki de Saint-Phal à propos du musée Jean Tinguely à Bâle. Bibliographie Jean Tinguely à votre disposition, elles sont gratuites. Alors par courrier Les Arts et les Gens, France Culture, Maison de Radio France, 75 220 Paris, Sedex 16. Et puis par téléphone dès maintenant à Paris, le 01 42 20 62 62.
C'était « Les arts et les gens, la vie d'artiste », le musée Jean Tinguely à Bâle, seconde partie de l'entretien avec Niki de Saint-Phal, diffusé la première fois le 30 décembre 1996 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.